France Culture.
Je sais lire dans les gens, c'est mon métier. Freddy Otash à James Ellroy. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui fait incursion ce soir en plein monde des hommes de l'ombre. Avec Les Enchanteurs, dernier roman de James Ellroy, paru bien sûr chez Rivage, troisième volet de son nouveau cycle, dit Quintette de Los Angeles et entièrement consacré aux derniers mois et aux dernières heures d'une Marilyn Monroe livrée aux manigances rapaces du journaliste détective Freddy Otash. Pour Ellroy, l'histoire n'est pas le fait des masses, pas plus qu'une scène où évoluent les grands hommes. C'est une coulisse où s'affairent fouille-merde et casseurs de bras, paparazzi et mateurs. Dont acte durant le long entretien qu'il accordait à Mauvais genre, chronique ellroyenne, d'une certaine manière, en second temps d'émission signée Esther Taillard et Antoine Guillot. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui vous fera entendre ce soir eh bien, un long entretien que nous a accordé James Ellroy. Je serai en compagnie de Hubert Prolongeau et les propos du maître du dog de la hyène seront traduits par Marguerite Capel. Et en seconde partie d'émission, ce sera bien évidemment des chroniques d'une tonalité assez ellroyenne. Ça ne sera pas Los Angeles dont vous allez nous parler, Esther Taillard, mais Marseille.
Marseille confidentielle, tout à fait.
Marseille confidentielle, d'ailleurs, qui n'a rien à envier à Los Angeles en matière de corruption, de violence.
Rien du tout.
Eh bien, on verra ça avec deux livres récents. Et Antoine Guillot n'est pas en reste.
Bonsoir, François.
Bonsoir.
Oui, nous allons parler de l'histoire étrange de Action Directe et de sa traque par les RG, du rôle très trouble d'un peintre libanais dans l'affaire. Et puis, si nous avons le temps aussi,
on
parlera de ce fou furieux homicide qui a contribué à inventer le cinéma dans un paysage de western.
Cinéma où les fous furieux homicides sont bien évidemment légion. Merci à tous deux. On se retrouve en fin d'émission et avant cela, bien évidemment, place au dog, place à James Ellroy. Après le quatuor de Los Angeles et la trilogie Underworld USA, James Ellroy se lance dans un nouveau cycle, le Quintet de Los Angeles, dont les deux titres étaient déjà parus, Perfidia et La Tempête qui vient, sur les années 41 et 42. Amérique en guerre, vie de la communauté japonaise et angoisse collective. Le troisième volume, Les Enchanteurs, est centré autour de la mort de Marilyn Monroe, proie d'une surveillance et d'investigation démoniaque menée par un homme de l'ombre, Freddy Otash, répondant aux ordres de la mafia ou de Washington. James Ellroy est là pour nous permettre de mieux connaître cet univers. Bonjour James Ellroy.
Hey boss, how are you?
Bonjour patron, comment ça va?
Ça va pas trop mal, avec vous ça va toujours très très bien. On va commencer par une question, je dirais, immédiate, qui est liée au titre du livre. Les enchanteurs. Alors, de quels enchanteurs s'agit-il et surtout, de quel enchantement s'agit-il? Est-ce que c'est enchanté de vous rencontrer? Est-ce que c'est l'enchanteur Merlin? Et puis j'ai noté une phrase, un moment, j'ai trouvé un flacon de Dilaudide, voilà de l'enchantement. Alors ces gens, ces enchanteurs, quels sont-ils?
The enchanters are the false
les
gods.
Les enchanteurs sont les faux dieux.
Of the jive. John and Robert Kennedy.
De John et Robert Kennedy et de leur époque.
It's the era commonly called
Camelot. C'est une
Camelot,
époque qu'on peut assimiler à Camelot.
But it was just another corrupt American presidential.
En fait, c'était encore un régime présidentiel et une administration américaine corrompue.
And Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe
was an eight-night stand of John F. Kennedy.
Est un coup de huit soirs de John F. Kennedy.
Robert F. Kennedy, never
Robert Kennedy
the pork.
Lui, n'a jamais tiré son coup avec elle.
And Jack Kennedy
Quant
would
à
only
Jack
spend
Kennedy.
1 hour with his various girlfriends.
Il ne passait qu'une heure en général avec ses divers petites amies.
So it's safe to say
Donc on peut dire
that their much lauded, much ballyhooed, much bullshitted liaison
que les liaisons très sur lesquelles on a dit beaucoup de conneries
did not
très montées en épingle par Hollywood
more than 8 hours.
Cette liaison-là entre Kennedy et Marilyn Monroe n'a pas duré plus de 8 heures.
I found Marilyn Monroe to be stupid,
Moi, Marilyn Monroe, je la trouvais stupide, superficielle, mauvaise actrice.
And I'm out to tell you the true story.
Et moi, je vais vous raconter la vraie histoire.
C'est donc la vraie histoire de Marilyn Monroe qui est dans les... Dans Les Enchanteurs.
It's all fiction.
Non,
yeah.
C'est que de la fiction, voyons.
80% de fiction et 20% de vérité.
Non, not even
non.
That much. This
même
is
pas autant.
99.9%.
C'est 99,9% de fiction.
Hubert Prolongeau.
Dans les précédents tomes, Perfidia et la tempête qui vient, on désignait le cycle à venir sous le titre « Le nouveau quatuor de Los Angeles ». Là, pour Les Enchanteurs, c'est devenu le quintet de Los Angeles. Votre projet initial a changé ?
I changed my mind.
Oui, j'ai changé d'avis.
Why did I change my mind?
Pourquoi ? J'avais pas envie d'écrire encore deux énormes livres sur Los Angeles pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai eu cette idée qui a donné naissance aux Enchanteurs.
And two more Freddy Otash novels.
Et encore deux romans avec Freddy Otash.
To be set in 1962.
Qui se passeront en 1962.
So collectively, they would comprise
Et donc, l'ensemble
a micro-history of LA,
formera une micro-histoire de Los Angeles.
My horrific hometown,
mon horrible
that
ville natale. Cette année fatidique de 1962.
Pourquoi ce saut de 20 ans, du coup, entre La Tempête qui vient ici ? C'est votre lassitude ou pour vous, d'un point de vue thématique, ça a du sens d'occulter les années entre les deux ?
This was the story that grabbed me.
C'est l'histoire qui m'a vraiment saisi, qui s'est emparée de moi, et ça s'est passé en 1962.
I always go where the story grabs me.
Moi, je vais toujours là où l'histoire m'entraîne.
Alors justement, Los Angeles, vous écrivez dans Les Enchanteurs que c'est la cité des anges déchus. Est-ce que pour vous, elle a une valeur, je dirais, presque théologique ? Est-ce que c'est pour vous comme Babylone ? Ou Sodome et Gomorre, est-ce que c'est une ville qui, avec l'histoire, avec le temps, a véritablement un symbole fort de la ville comme perdition et décadence?
I got lucky. My parents
J'ai eu de la chance.
Cool.
Mes parents m'ont élevé dans un endroit qui était bien.
I was born in LA in 1948.
Je suis né en 48 à Los Angeles.
The height of the film noir epicenter.
Alors que c'était l'ère de gloire du cinéma noir, du film noir.
Both geographically and chronologically.
C'était l'épicentre à la fois d'un point de vue chronologique et d'un point de vue géographique.
And therein lies the muse.
Et c'est là qu'était la muse.
History is destiny.
L'histoire, c'est le destin.
Qu'est-ce qui vous fascine chez Freddy Otash ? Vous venez de nous dire que les deux prochains livres du quintet lui seront consacrés. Vous avez mis en scène avant des génies du mal assez flamboyants, comme Dudley Smith, qui était l'un des héros de Perfidia et La Tempête qui vient. Otash n'a pas la même ampleur, pas le même panache, il est plus dans la posture du voyeur. Pourquoi l'avoir mis, lui, à ce point en avant ?
He's a voyeur.
C'est un voyeur.
He has his redeeming value, if he has
il a
one.
Aussi peut-être une forme de rédemption, en tout cas si elle existe
Is
chez lui.
His tortured, diffident,
c'est
near deferential,
sa,
romantic
son,
regard for
sa considération pour les femmes, qui est romantique, qui est presque suicidaire chez lui, qui confine à la déférence.
It will take him, this book,
Et ce livre
through the next book,
lui fera, ainsi que le prochain d'ailleurs,
find true love,
lui fera découvrir le véritable amour
with a real life historical character,
avec un véritable personnage historique
a woman very much indigenous,
une femme
LA in the early
qui est vraiment emblématique du Los Angeles des années 60. Yeah.
He's a sweetheart compared to Dudley Smith.
C'est plutôt un cœur tendre, hein, comparé à Dudley Smith.
Who is not a sweetheart compared to Dudley Smith?
I don't know, maybe Vladimir Putin.
Peut-être Vladimir Poutine?
Maybe. Autre émission, autre débat. Alors, on parle de Freddy Otash, continuons à parler de lui. Il y a des petites formules, des petites sentences qui sont un peu définitions de soi-même que vous lui prêtez dans le roman. Je vais en énumérer un certain nombre. Je sais lire dans les gens, c'est mon métier. J'imprime des détails jusqu'à devenir un écran noir. J'aimerais que vous nous parliez de cette capacité à lire dans les gens, au besoin de savoir pourquoi de Freddy Otash. Cette espèce de capacité, alors je peux dire, c'est très technique, puisqu'il branche des micros, des caméras, il surveille tout, ça devient une véritable, un laboratoire vivant, mais ce besoin de savoir tout de quelqu'un et cette capacité à lire dans les autres.
Freddy is one in a long line.
Freddy, c'est un personnage qui appartient à une longue lignée
of American classic hard-boiled heroes.
De héros noirs traditionnels américains.
Which began with Dashiell Hammett.
C'est une tradition qui commence avec Dashiell Hammett.
And his first novel.
Et son premier roman.
Red Harvest.
La moisson rouge.
And Hammett and I comprise the Alpha and the Omega.
Et moi, on représente l'alpha et l'oméga.
Of the American hard-boiled novel.
Du roman hard-boiled, du roman policier américain.
The great jurist critic,
le grand critique littéraire et avocat
David T. Bazelon wrote this about Hammett.
A écrit au sujet de Dashiell Hammett.
Hammett's hero,
le héros de Dashiell Hammett,
is primarily
est avant
a job holder.
Quelqu'un qui a un travail.
It is at the core.
C'est vraiment au cœur.
Of Hammett's vision of the American
de sa
male
vision du mal de l'homme américain
in American society.
Dans la société américaine.
He goes at his job.
Il va au travail
with a bloodthirsty determination,
avec une détermination sans faille
which proceeds from an unwillingness
qui
to
vient
go beyond it.
Un non-désir de dépasser justement ce travail.
This relationship to the job
sa relation avec son travail, c'est sans doute ça qui est typiquement américain.
The idea of doing or not doing a job competently,
l'idée de faire ou ne pas faire son boulot de façon compétente a complètement remplacé la question plus large du bien et du mal.
That's Hammett, that's me.
C'est ça, Dashiell Hammett, c'est moi aussi. Ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi.
He is a disordered personality.
C'est une personnalité troublée.
He does not question
il ne
why
remet pas
he
en cause les raisons pour
does.
Lesquelles il fait ce qu'il fait.
He imposes himself
il s'impose
on external events, particularly violent events,
dans des événements qui sont violents, des événements extérieurs à lui,
that require great detectives
où on a besoin de bons enquêteurs, d'excellents enquêteurs. Et il cherche à résoudre l'énigme humaine qu'il y a sur ces scènes de crime.
Donc résoudre l'énigme humaine, c'est donc la perspective, parce qu'il y a une première finalité qui est, je dirais, à la limite, il gagne sa vie en enquêtant par tous les moyens sur des personnalités pour d'autres personnalités. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de la quête spirituelle derrière, sur cette idée de percer, de mettre à jour le mystère d'un individu. Et que ce soit Marilyn Monroe ou tout autre, Lawford ou les Kennedy, il y a l'idée d'arriver à percer comme ça un mystère individuel.
It is a spiritual quest.
Oui, c'est une quête spirituelle.
He is looking for himself.
Il se cherche lui-même.
He is beset by a sinful nature.
Il est affligé d'une tendance au vice.
He is a drug addict.
Il est drogué, toxicomane.
And he is indisputably a great
et
police
très clairement,
detective.
C'est un excellent détective. Sans conteste.
He has learned to collate evidence.
Il a appris à rassembler des preuves.
By studying.
Il a étudié.
the theories of a Berlin homicide detective, fictional.
D'un détective de Berlin qui est fictionnel, un détective de fiction.
And I might add a Nazi party member
et qui était aussi named membre Hans du Maslick, parti nazi qui s'appelle Hans Maslick.
Who invented the man camera technique
et qui
back
a inventé cette technique de la caméra humaine dans les années 20.
So Freddy has developed an eidetic
Donc Freddy a développé une mémoire visuelle.
He is capable
Il
of
est capable
studying,
de,
imprinting,
d'examiner, d'imprimer,
in taking large swaths
de
of
s'imprégner
data,
de grandes quantités de données,
turning them around,
re-studying, re-studying, et de les tourner dans tous
re-studying.
Les sens pour les réexaminer sans fin.
And utilizing all this study to form a concluding thesis.
Pour émettre une hypothèse conclusive.
And hence the solving of a crime.
Et c'est comme ça qu'on résout un crime.
Parce qu'à un moment, il mémorise les numéros de 143 véhicules automobiles.
Yes. It is largely... Yeah. Yeah, it is largely memorizing license plate numbers.
Il est capable comme ça de mémoriser des plaques d'immatriculation.
Going through records,
de
going
lire
through DMV,
des dossiers, de lire les fiches d'enquête,
car registration
les
lists,
registres
all of this
d'immatriculation,
in the
les signalements
era,
possibles à une époque où on n'avait pas d'ordinateur.
And it's a process of elimination.
Et c'est un processus par élimination.
That is necessary to get him to the point
pour en arriver
of one revelation.
À la révélation.
Which is why this would be a lousy movie.
C'est pour ça que ça ferait un très mauvais film.
And would never be a movie.
D'ailleurs, ça ne fera jamais un film.
Because he's always in his own head.
Parce qu'il est toujours dans sa tête, dans son
and he's
enfermé dans son propre esprit.
Up.
Et puis qu'il est toujours complètement défoncé.
Amphetamines.
Il prend des amphètes.
Jungle juice, which was
jungle juice, qui était le nom à l'époque.
Opium boiled
d'opium,
in 151 proof rum.
Qui était donc sous une forme particulière de l'époque, mélangé avec de l'amphétamine.
By the way, do you have any?
D'ailleurs, si
I
vous en avez, moi j'en veux bien.
Yeah.
Si vous avez une dose, ça me servirait.
He's paying a horrible human price.
Il a payé un prix terrible.
To
en tant qu'être humain.
Get to the level of elimination
pour en arriver
that he needs
au niveau où il est.
Of studying and studying and studying and
pour être dans l'état d'esprit qui lui permet comme ça d'examiner, d'étudier, d'analyser sans fin pour en arriver à la sixième ou la septième révélation
that will lead to 20 interviews,
qui conduira à 20 interrogatoires,
a few violent confrontations,
à quelques confrontations violentes
to get him through
pour qu'enfin
les trois cas
ils parviennent à résoudre les trois enquêtes qui sont la base de ces trois romans.
But,
mais,
in the second book,
dans le deuxième livre,
he meets a woman.
Il rencontrera une femme.
And it sends everything haywire.
Et ça changera tout.
Vous l'avez consacré à Freddy Otash, quelques nouvelles, certaines que vous avez développées et regroupées dans un recueil qui s'appelle Panique Générale, qui est une sorte de mémoire de Otash. Quelle est votre relation à ce personnage? Comment il a grandi en vous? Est-ce qu'il a tout le temps été pour vous comme il est dans Les Enchanteurs? Est-ce qu'il y a une évolution? Quelle relation plus personnelle vous avez avec lui?
I met Freddy Otash in
1989. J'ai rencontré Freddy Otash en 1989.
I knew him until his death in 1992.
Je l'ai connu, je l'ai fréquenté jusqu'à sa mort en 92.
I disliked him.
Je ne l'aimais pas.
He was charmless.
Il n'avait aucun charme.
He was regretful.
Il était pétri de regret.
He was surly.
Il était amer.
He did not inspire my trust.
Il ne m'a pas du tout inspiré confiance.
I had originally paid him.
Au départ, je l'ai payé.
To appear as the hero of my novel American
Tabloid. Pour être le héros de mon roman American Tabloid. Mais dans cet accord, dans le contrat, il y avait aussi le fait qu'il ne pouvait pas contredire ou contester quoi que ce soit dans ce que j'écrivais sur lui. Et je ne lui faisais pas confiance. Je ne pensais pas qu'il allait tenir sa part du contrat, et donc finalement je l'ai viré. Et puis il est resté là dans ma tête pendant longtemps.
And here he is.
Et le voilà.
In the beginning of his final form.
Au début de la forme finale qu'il est en train de prendre chez moi, cette fois dans le roman Les Enchanteurs.
Il parcourt plusieurs de vos livres. Beaucoup de vos héros passent d'un livre à l'autre. On les retrouve d'un cycle à l'autre. Il y a trois gros cycles dans votre œuvre. Il y a des romans unitaires mais qui s'en rattachent. Est-ce que aujourd'hui tout ce corpus prend pour vous un peu l'allure d'une comédie humaine, pour prendre l'exemple le plus légendaire de ces cycles de romans couvrant une époque.
Je veux donner au lecteur une œuvre, l'œuvre d'une vie, mais d'une vie collective.
Of great intimacy.
Avec une un grand degré d'intimité
and great historical magnitude,
et en même temps une grande ampleur historique.
That will require,
et je veux que cette œuvre
the men and women who read these
exige
books,
des hommes et des femmes qui la lisent, qui lisent ces livres,
to reread them and reread them and reread
qu'ils
them,
les relisent
with
à plusieurs reprises avec un œil obsessif, obsessionnel, autant que l'obsessionnel que je suis quand je les écris.
In that sense, a comedy, a human comedy.
Donc, oui, en ce sens, oui, c'est bien une comédie humaine.
Alors revenons à la figure de Freddy Otash. Ce qui est fascinant, c'est l'arsenal technologique dont il dispose pour mener ses enquêtes. Il y a même des pages entières où il énumère toutes les branchements, les installations qu'il fait chez des particuliers en leur absence et en dehors de leur connaissance, bien sûr. Il y a véritablement une espèce de technologie, d'hyper-technologie de l'indiscrétion. Ça c'est une dimension essentielle du personnage. J'aimerais savoir comment vous avez mené une enquête pour justement avoir cette connaissance je dirais de la cette technologie de la surveillance de l'époque de 62.
Yeah. It's really just electronics 101.
C'est vraiment de l'électronique de base.
Try to think of a pre-digital age.
Essayez de penser à l'ère pré-informatique où la technologie de pointe c'était l'électronique.
And radio of course.
La radio aussi bien sûr, la radio. Medium. C'est un médium qui utilise l'électronique.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est de savoir où on place un micro, par exemple, à côté d'une lampe, sous un matelas, sous une chaise, où on arrive fort un mur pour mettre une caméra. Il y a véritablement une manière de relire comme ça le décor sur le mode de la surveillance.
Yes, there's a book actually, and it's not a bad book. It was made into.
Il y a un livre qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Qui a donné lieu à un film, une adaptation cinéma avec Sean Connery. C'est de Lawrence Sanders.
It was called The Anderson Tapes.
Ça s'appelle The Anderson Tapes.
Sidney Lumet.
Yeah, Sidney Lumet movie, right. And it's comprised of nothing.
C'est un film qui ne repose sur rien d'autre que justement sur ce type de technique de surveillance d'enregistrement.
It doesn't work 100%.
Ça n'est pas fiable à 100%.
Because nothing is dramatized.
Parce que justement, il n'y a pas vraiment de dramatisation.
And he shoots his bolt on the repeated electronics.
Il joue justement sur la répétition de l'usage de ces outils électroniques.
That have no human value.
Mais ce sont des outils qui n'ont en soi aucune valeur humaine.
Puisqu'on rentre un peu dans la fabrique plus précise de vos romans, quelle part à la documentation? Vous dites c'est 99,9% de fiction, et en même temps on sent qu'il y a une connaissance extrêmement pointue des structures, de l'histoire d'Hollywood, vous citez beaucoup de personnages célèbres qui généralement sont assez peu flattés par les portraits que vous en faites. Cette documentation, est-ce que pour vous c'est un premier stade? Est-ce que vous élaborez votre propre fiction au fur et à mesure que vous lisez, et est-ce que vous vous y tenez? Est-ce que pour vous ça a une importance, la vérité, ou c'est qu'une béquille pour votre imagination?
Well, that's a broad-reaching question.
Eh bien, c'est une question très vaste. Donc, je vais vous donner une réponse peut-être un peu vaste, aussi générale.
My mind, for whatever reasons,
mon esprit, je ne sais pas pourquoi.
I grew up with two basic influences.
En fait, j'ai grandi avec deux influences importantes, la Bible et l'Église luthérienne.
And Confidential magazine.
Et le, donc ça, c'est la Bible d'un côté, et de l'autre côté, le magazine Confidential.
So, you know, I'm here to judge and judge sternly.
Donc je suis là pour émettre un jugement. Et j'aime aussi me vautrer dans les péchés de l'âme humaine. Je suis votre pire cauchemar.
Of the big overarching Protestant pastor.
Le grand méchant pasteur protestant.
And that's me.
C'est moi.
But I can only take the Hollywood sleaze and dirt that I know so far.
Mais en même temps, je ne peux parler que de la fange hollywoodienne que je connais qu'en passant par la fiction.
So generally, there's some very PC woke person.
Il y a toujours quelqu'un de politiquement correct dans le public qui a envie de me demander pourquoi tous ces trucs sexuels, pourquoi vous vous intéressez à toutes ces perversions. Parce que, et ça c'est une blague d'ailleurs que j'ai entendue enfant,
j'ai entendu
à nombreuses reprises,
verbatim.
Je la cite telle que je l'ai entendue.
I want to find the guy,
j'ai envie de trouver
le mec
qui a inventé le sexe,
and ask him what he's working
pour lui demander
on now.
Sur quoi il travaille en ce moment.
And there are kids who are so young people,
il y a des gamins
people,
qui sont tellement jeunes,
who are
la vingtaine,
so whacked out on political correctness,
qui sont tellement à fond dans
le
politiquement correct qu'ils ne comprennent même pas la blague.
So I'll say it again.
Donc je vais la répéter. J'ai envie de trouver le mec qui a inventé le sexe et lui demander sur quoi il travaille maintenant.
Really?
Vraiment, j'ai envie de
What's
demander.
More interesting?
Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant?
What's more important?
Qu'est-ce qu'il y a de plus important?
Really?
En vrai.
Yeah. And so what Freddy Otash did when
et donc ce que Freddy Otash a fait
magazine,
à l'époque où il travaillait pour ce magazine à scandale, Confidential,
was he tattled the inside sex stories,
c'est que justement
movie stars,
il se vautrait dans les ragots sexuels des stars de cinéma, des personnalités connues, des politiciens corrompus,
uncorrupted politicians,
des politiciens non corrompus,
big businessmen,
des grands hommes d'affaires.
And why the magazine,
et pourquoi
was so successful,
est-ce que le magazine avait un tel succès?
People read it,
parce que les gens lisaient ces ragots,
and because it rendered all these gilded
parce que
people
ça
attainable,
rendait toutes ces personnes qui vivaient dans des sphères dorées, dans les hautes sphères, atteignables, accessibles.
It made the people that
ça
spent donnait
l'impression que ces gens qui dépensaient,
for an issue of confidential,
à ces personnes qui dépensaient 25 centimes pour s'acheter un numéro,
and at the height of its circulation,
ça leur donnait l'impression d'être plus proche. Et au pic de sa circulation en 1955, de sa diffusion, ça se vendait à 3 millions d'exemplaires par mois, Confidential.
People thought, wow, Ava Gardner,
et les gens disaient,
wow, nymphomaniac.
Ava Gardner est nymphomane.
I could have her,
je pourrais me la taper.
The wind blows the right way,
si le vent souffle dans la bonne direction, peut-être, et que j'arrive dans le bon sens du vent, je pourrais me la taper.
Marilyn Monroe is messing
Marilyn
around
Monroe
with pizza delivery boys.
Fait de la merde avec des livreurs de pizza.
Pizza.
Super,
right,
j'ai pu cabosser chez Domino's Pizza.
And that's it right there.
Et voilà, c'est ça la raison.
That's the human comedy,
c'est ça, la comédie humaine poussée jusqu'à l'absurde.
And that was Freddie's métier for years.
Et ça, ça a été le métier de Freddie pendant des années.
Il y a un livre dont j'aimerais savoir si vous l'avez relu, et quelle importance il a eu pour vous. C'est le livre de Kenneth Anger, Hollywood Babylon.
Yeah, I've looked at the pictures more than I've read the book. Yeah.
J'ai surtout vu le film.
That's where I discovered.
C'est là où j'ai découvert.
The suicide death of Carol Landis.
La mort par suicide de Carol Landis, qui est un personnage important dans Les Enchanteurs.
There was an actress named Gail Russell.
Il y avait une actrice nommée Gail Russell.
Who drank herself to death at a cheap pad in
qui est morte d'un coma éthylique en 1961 à Los Angeles. J'aurais vraiment voulu pouvoir l'utiliser dans ce livre.
But she died the previous year.
Mais elle est morte un an trop tôt.
Et il y en a une que vous exhumez, qui est une actrice très oubliée, et dont il semble que vous avez plus d'affection pour elle que pour Marilyn Monroe, c'est Lois Nettleton. Vous pouvez nous en parler ?
Lois Nettleton.
Lois Nettleton.
I first saw her on the Naked City TV show.
La première fois que je l'ai vue, c'était dans un feuilleton télé qui s'appelait The Naked City.
In 1961.
En 1961.
And I was immediately struck by her.
Et elle m'a immédiatement marqué, et j'avais 13 ans.
She was 35.
Elle avait 35 ans.
Yeah. And she was born in 1927, I was born in 1948.
Elle est née en 27 et moi en 48. Donc bon.
You know, a pubescent boy.
J'étais vraiment un garçon en pleine puberté.
She's a mature woman.
Elle est une femme d'âge mûr.
And I only saw her in 5 or 6 episodes.
Je l'ai vue dans 5 ou 6 épisodes de ce feuilleton.
The Naked City and the Fugitive TV series.
Et aussi du feuilleton Les Fugitifs.
I was somewhat embarrassed. She was typecast. She was the
C'était
love
vraiment
hungry
un personnage
woman.
Un peu caricatural. C'était la femme assoiffée d'amour, qui cherchait l'amour et qui était privée d'amour.
Before I decided to use her
Avant de décider de me servir
panic,
d'elle dans Panique Générale,
I went back and watched all these TV shows.
J'ai revu tous ces épisodes
and
de
the very first show she appeared in, from
Dans le tout premier épisode où elle apparaît,
From the spring of 1961.
Au printemps 61.
She is a lonely. She's applied to a Lonely Hearts Club. She gets set up on blind dates.
Dans une association pour les cœurs esselés, et elle va à des rendez-vous à l'aveuglette.
She gets a date with an actor.
Elle a un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas.
He's not an actor in the movie, but it's the actor.
C'est pas un acteur du film, mais c'est un
Fred J. Scarlet.
Fred J. Scarlet, qui était un acteur décédé aujourd'hui.
The ugliest man who ever
lived. Qui était probablement l'homme le plus moche du monde. Il avait une peau terrible, des boutons, des traits très désagréables, un air tout à fait démoniaque.
What the hell? She's the love-starved woman.
Alors que
elle est magnifique. His hands folded thusly. People in the radio audience can't
Il se tenait les mains, il se croisait les doigts comme ça.
And
devant lui.
She sits down across from him, puts her hands over his
Et donc elle est en face de lui et elle pose elle-même ses mains sur ses mains croisées, sur ses doigts croisés.
Starts to take a bite. Out of his hand, or makes like she's going to take
Et
a
elle
bite
fait mine
out of
de vouloir
hand.
Lui mordre les mains.
I was 13 when I saw this the first time.
J'avais 13 ans la première fois que j'ai vu cet épisode.
I don't know what kind of reaction
Je
it made on me then.
Je sais pas très bien ce que ça m'a fait à l'époque.
Watching it as a 68-year-old
Mais en le regardant
man,
à l'âge de 68 ans,
I was astounded
j'ai été époustouflé par l'audace
the
de cette scène.
Of it.
Qui était vraiment extrêmement innovante à l'époque.
And her boldness
et son audace à elle
in that particular improvisation.
Dans ce moment d'improvisation particulier,
Nobody
parce que clairement c'était improvisé.
That,
Personne ne lui a demandé de faire ça.
Stuart Rosenberg, didn't tell
Stuart
her
Rosenberg
to do
ne lui a pas dit qu'il fallait faire ça.
And she's owned me in a weird way ever since.
Et depuis, elle m'obsède d'une manière
Because
un peu étrange.
Her love hunger is my love
parce que sa quête d'amour, c'est la mienne.
Alors, l'autre femme centrale dans Les Enchanteurs, James Ellroy, c'est Marilyn Monroe. Mais Marilyn Monroe, pour laquelle vous n'éprouvez aucune passion particulière et aucun intérêt marqué. Voilà qui en dit long. Marilyn Monroe, ce qui est surtout intéressant, si j'ose dire, puisqu'elle apparaît comme l'œil d'un cyclone, c'est surtout le cyclone qui nous préoccupe, c'est tout le monde qui l'entoure. Il y a d'abord les psychiatres, les psychanalystes, les chauffeurs de taxi, les livreurs de pizza, les hommes politiques, évidemment les Kennedy qu'on connaît bien, d'autres personnalités du cinéma, bien évidemment, des acteurs et des... Et ce qui est fabuleux, c'est la manière dont vous organisez toute la vie américaine de cette année 62 autour de la figure de Marilyn Monroe comme l'œil du cyclone.
She's the eye of
Elle est l'œil du cyclone
for the first volume
pendant ce premier tome
of my micro-history
de ma micro-histoire de 1962. Il y en a deux autres. Il y aura deux autres œils du cyclone.
Donc c'est le premier, mais on ne sait pas quels seront les deux autres.
I know who they are. I'm not going to tell you that.
Moi, je sais, mais je ne vais pas vous dire.
Vous avez cité tout à l'heure un critique américain qui disait que D'Achille Hamet était l'alpha du roman Hardboiled et vous l'oméga. Est-ce que par ce terme d'oméga, qui a un côté final, vous voulez dire que vous avez l'impression d'avoir posé une ultime pierre au genre, que derrière vous c'est une table rase, ou est-ce que vous voyez un héritage, voire d'autres choses qui se créent, qui dépasseraient ou poursuivraient ce que vous avez entamé?
I don't see... An American crime writer coming
Je
around
ne
is better
vois
than
pas de meilleur auteur de polar américain aujourd'hui qui soit meilleur que moi.
After me,
Après moi,
the finest writer
le meilleur
realistic
auteur
intrigue, American qui writer,
concerne la violence, l'écriture réaliste de la violence parmi
les
auteurs américains, c'est une autrice, c'est Patricia Highsmith.
But only three of her books.
Mais il y a seulement trois de ses livres
And
qui réussissent
ça. There's a reason behind it.
Et il y a une raison à ça.
Strangers on a Train.
L'Inconnu du Nord Express.
L'Inconnu du Nord Express, voilà, qui est un très mauvais film. The Blunderer.
And her finest work, which has been made in a whole bunch of movies.
Selon moi,
The Talented Mr. Ripley.
Le talentueux Monsieur Ripley, qui a été adapté de nombreuses fois au cinéma.
But she has only one great theme.
Mais elle n'a qu'un seul grand thème, qui est l'homosexualité masculine.
Yeah. But boy, is she great.
Mais qu'est-ce qu'elle est forte.
Peut-on dire, James Ellroy, que vous écrivez, que votre méthode de travail, de rédaction... est proche de celle de Freddy Otash, c'est-à-dire la mobilisation intégrale, permanente, de tous les moyens possibles pour aboutir à une exactitude de la vérité dramatique totale. De même que lui met des micros partout, photographie tout, ouvre toutes les lettres, fouille tous les tiroirs. Vous, c'est pareil. Quand vous partez sur un sujet, il faut que vous soyez absolument omniscient, omniprésent, que vous l'avaliez littéralement. Et après seulement, vous pouvez entrer dans cette espèce de nuit qui est celle du personnage ou de la période.
You're absolutely right. It is
vous avez tout à fait raison.
Of minute detail. Electronically gleaned.
C'est une forme d'accrétion, de phénomène d'accrétion à partir de tout ce que je rassemble.
And it's generally, or it has
ce que
been
je collecte, et de façon générale, dans ces trois livres, celui-ci et les deux qui vont suivre, c'est le travail de 10 sous-fifres de Freddy. Il y a ses amis.
The four men in the Hat Squad.
Il y a les quatre types du Hat Squad de la.
Daryl Gates,
Hat Brigade.
The Intelligence Division Commander.
Le commandant de la direction, ses lieutenants.
Nasty Nat Dankins, the disc jockey.
Nasty Nat Dankin, le DJ.
Yeah. Kareem Dankins, his armed robber brother, and his real life goon Phil.
Bras armé cambrioleur.
And that's a total of 10 men who
are
out there putting
au total qui rassemblent
graphs for him,
toutes ces informations, qui font
him,
ces vérifications, qui tiennent les dossiers et qui gèrent la surveillance là où il ne peut pas être.
So he has access
Donc, il a accès à des hommes aux esprits très affûtés qui sont capables, en fait, d'aller au-delà de son travail. Et puis, bien sûr, la dramatisation qui donne lieu, en général, à des moments de violence, des moments de violence brutale. Mais je tiens à préciser qu'il ne se frotte qu'à des gens pires que lui. Et il ne cherche des noises qu'à des gens pires que lui.
That is key.
Et c'est ça la clé.
The sympathetic factor that defines
la clé du facteur d'empathie qui peut quand même définir Freddy Otash. Il ne va pas s'en prendre à des gens pathétiques, à des ivrognes,
puissants,
qui n'auraient rien à lui raconter.
When he can go put
alors
the hurt
qu'il
on
peut
some guy who
aller
has
s'en prendre à des gens qui ont des vraies infos.
That will prevent this man from hurting other people.
Et peut-être empêcher ces gens-là de nuire à d'autres.
That's why we love him.
C'est pour ça qu'on l'aime bien.
Votre écriture, j'ai l'impression, mais peut-être vous allez me contredire, a connu un changement important avec White Jazz, qui est le dernier volume du Quatuor de Los Angeles, où elle est devenue beaucoup plus dense, faite de beaucoup plus de phrases sans verbe, plus rapide et parfois un peu plus obscure. Est-ce que aujourd'hui, comment vous la jugez, votre écriture? Est-ce que vous avez continué, vous avez l'impression de travailler dans cette voie, ou au contraire, vous êtes revenu en arrière? Comment est-ce qu'aujourd'hui, Elroy lit James Elroy?
White Jazz was
White Jazz
an extreme excursion
était
into the realms of style,
une exploration extrême dans le domaine stylistique.
As was the Cold 6000.
De la même façon que American Death Trip, tous mes livres,
Blood's a Rover,
que ce soit Underworld USA,
and Perfidia, the storm,
Perfidia, la tempête qui vient, panique générale, ce livre, ce sont des romans narratifs qui sont racontés à la première personne. J'ai adopté ce style dont vous venez de parler et j'ai eu l'intention de le pousser aussi loin que possible.
I had to return to a more traditional narrative.
Mais il fallait quand même que je revienne à un langage narratif un peu plus traditionnel.
On va poser une peut-être dernière question, James Elroy. Dans ces enchanteurs, il y a cette phrase « Plus on tutoie le ciel, plus on mord la poussière ». Alors je vais renverser la proposition. Est-ce que pour tutoyer le ciel, il ne faut pas en définitive encore et encore mordre la poussière ? Et est-ce que c'est pas la clé de la vie de Freddy Otash, qui veut tutoyer le ciel et qui s'affronte à la poussière encore et toujours, à la poussière et toujours la poussière?
I've outlined the sequel to this book.
J'ai commencé à écrire l'histoire de la suite de ce livre.
I have the idea.
J'ai le plan général, j'ai les idées.
For the third book.
J'ai les idées aussi
including book
pour le prochain, le suivant, le troisième.
I can't answer that question.
Et donc, je ne peux pas, en fait, répondre à cette question.
Dernière question. Ce roman, James Elroy, Les Enchanteurs, est dédié à François Guérif. C'est la première fois que vous lui dédiez, à ma connaissance, un livre. C'est un acte important, puisque votre parcours est exceptionnel. Je veux dire, dans l'histoire de l'édition française, de la littérature noire et dans votre histoire personnelle.
Well, let's put it this way.
Disons les choses ainsi.
François
a fait de moi ce que je suis en France. Il a fait ma carrière. Et François et moi, à nous deux, nous avons fait de Rivage Noir ce que c'est. C'est nous qui avons créé cette maison d'édition. Ma dette envers lui est plus grande que sa dette envers moi.
A shitty biography, paperback original, was written about me
il y a
last
une
year.
Mauvaise biographie sur moi qui a été écrite l'année dernière.
Full of aggrieved ex-girlfriend bullshit.
Pleine de conneries racontées par d'anciennes petites amies vexées.
And factual inaccuracies.
Et d'une exactitude.
And I want to set the record straight.
Et j'ai envie de remettre les choses
so
au clair.
While I'm here,
donc, tant que je suis là, J'ai deux auteurs que je vais rencontrer et à qui je vais demander d'écrire ma biographie en France. Je veux que ce soit des auteurs français. Je veux parler de la présence d'une grande figure de la littérature américaine ici dans ce pays, qui vend mieux que les auteurs français, en tout cas qui vend beaucoup, et qui vend beaucoup mieux ici qu'il ne vend dans son propre pays. Trois fois plus, à vrai dire, que ce que je vends aux États-Unis. Et j'ai envie aussi de parler de la tradition littéraire française par rapport à la tradition américaine. Et en particulier de la fiction populaire américaine, du cinéma populaire américain. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que les meilleurs critiques soient français, Pourquoi est-ce que la rigueur intellectuelle et morale est plus répandue ici que dans mon propre pays?
Et
d'ailleurs, même une rigueur qui s'applique à l'extérieur du pays de la France, et qui s'applique à mon propre pays d'origine. Ces deux hommes sont bilingues, ces deux écrivains, en tout cas, ils écrivent très bien aussi en français, et j'ai envie d'en discuter avec eux et de leur proposer de faire cette biographie. Voilà, je vais leur proposer cette semaine. Et si je ne veulent pas, tant pis.
Merci James Ellroy pour cet entretien et puis à bientôt.
À bientôt.
Merci à James Ellroy donc pour cet entretien à l'occasion de la sortie des Enchanteurs paru en Rivage Noir. Je rappelle que j'étais donc avec Hubert Prolongeau et que Marguerite Capel traduisait les propos du Dog. On passe maintenant aux chroniques dans Mauvais Genre et on va troquer Los Angeles contre Marseille. Après tout, French Connection peut créer des liens entre les deux. Avec vous, Esther Taillard, et surtout avec deux livres qui sont parus coup sur coup à quelques mois d'écart autour de Marseille, à la fois bon, imaginaire d'une capitale du crime, mais réalité peut-être de cette capitale.
Oui François, bienvenue à Marseille. J'ai toujours adoré cette phrase de l'écrivain Adrien Belz. Marseille est comme une femme très belle à qui j'ai envie de dire je t'aime, mais qui part avec un autre. Aujourd'hui, deux livres sur Marseille. Marseille, capitale du crime de Laurence Montel et Marseille interdite, histoire du quartier réservé de Martin Huc, qui s'accorde à cette conclusion. Écrire sur Marseille n'est pas chose facile. Adrien Belz a raison. Marseille est une femme horrible et délicieuse, impudique et secrète, insaisissable, confidentielle. Selon Laurence Montel, l'identité marseillaise reposerait sur deux axes. Une paranoïa générale provenant du sentiment d'appartenir à une ville à abattre et la peur de la disgrâce. Cocktail millimétré pour la fabrique d'une ville diablesse. Marseille, depuis sa montée en puissance fin 19e en pleine France nouvelle, semble cultiver un goût particulier pour les ascensions brutales et les déclins féroces. Réputation saignante, une place de pierre précieuse au carrefour de l'Orient et de l'Empire, terre de transit sacré pour souteneurs, dealers et autres figures christiques, règne du jazz et du cinéma porno, bohème littéraire, Albert Cohen et Marcel Pagnol, coquins du lycée Thiers. Sans oublier bien sûr ses jours noirs, et Dieu sait qu'elle en a, l'étatisation de la police en 1908, la mise sous tutelle de Marseille en 1939, le dynamitage du quartier réservé en 1943, petit bordel dans la ville ou ghetto de l'amour, 1500 immeubles explosés, 27 000 personnes expulsées, 50 rues fantômes, 800 personnes déportées. Enfin, sa place de mauvaise fille dans les médias, le fameux Marseille-Chicago. Ces guerres des gangs, Saint-Jean contre Saint-Mauron, des aides mafia contre Yoda, capitalisme de paria. Les descendants de la French Connection, ou plutôt la présence dans la ville d'un cancer lourdement métastasé qu'une intense chimiothérapie ébranlerait à peine. Oui, Marseille, petite diablesse, toujours suivie de son chat noir. Matière brûlante pour le cinéma de gangsters des années 60. Carbone et Spirito, les castors et pollux du crime, le deuxième souffle de Melville. Lino Ventura dans le rôle de Jules Terrible, inspiré de Gustave Mella, figure du milieu marseillais, premier adepte en France du hold-up à l'américaine. Que reste-t-il aujourd'hui du ghetto de l'amour? Les spectres de ces 300 meurtres et de ces 15 000 femmes vendues? Aujourd'hui, rue Tubano, ancienne rue culte du quartier réservé, des fleurs partout, fantômes des cocottes en résille. Si Marseille est à la mode, les putes de la rue de Curiole continuent à tapiner, les cagoles à porter le string ficelle, les petits à buter pour 50 balles. Personne ne déchiffrera jamais l'énigme que porte Marseille. Qui oserait déchiffrer le diable ?
Merci Esther donc pour cette chronique autour donc de deux livres, Marseille capitale du crime de Laurence Montel et Marseille interdite de Martin Huc. Antoine Guillot, cinéma Marseille depuis Maurice Tourneur et Justin de Marseille jusqu'à Friedkin et French Connection 2, c'est à peu près équivalent. Là. Le cinéma accompagné aussi.
C'est une ville qui est tellement folle et organique qu'il y a des voilà, il y a entre les hautes figures du truand marseillais, on remonte pas jusqu'au Pagnolade. Mais c'est un terreau cinématographique en fait très 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 intéressant, et on aura bientôt d'ailleurs une série documentaire sur LSD qui raconte comment des minots de Marseille en ce moment font des films tout seuls, les projettent dans des arrière-salles de café et ça inspire jusqu'aux grandes plateformes qui en font des remakes. Donc c'est toujours un grand terreau cinématographique.
On peut recommander également les polars de François Tomaseau, en trois volumes parus sur Marseille. On va changer peut-être de capitale,
on remonte à Paris, même si notre histoire commence plutôt à Toulouse. Vous connaissez notre excellent confrère Philippe Collin.
Tout à fait.
On recommande sa série de podcasts Les Fantômes de Philippe Pétain. Et là, c'est devenu un romancier à succès maintenant avec le barman du Ritz. Philippe Collin a la drôle d'idée de s'attaquer à Action Directe, de nous raconter l'histoire d'Action Directe. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, des noms comme Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Georges Cipriani, Régis Schleicher vous parleront. C'était les ennemis publics vraiment numéro un, les terroristes français, l'équivalent à la française de la fraction Armée Rouge ou des Brigades Rouges. Alors, pourquoi est-ce qu'il va s'attaquer à l'histoire d'Action Directe, parce qu'en fait, ça fait deux livres déjà, là c'est le troisième qu'ils font ensemble, qu'il fait avec Sébastien Goethals, qui est un dessinateur qui aime beaucoup le polar. Il se trouve que Sébastien Goethals a eu une enfance assez hippie dans les années 70-80 et que l'histoire d'Action Directe l'a touché de près, parce qu'une amie de ses parents, dans ce milieu un peu gentiment gauchiste, s'est fait arrêter pour avoir hébergé un des membres les plus violents d'Action Directe, qui est Régis Schleicher. Mais on savait pas trop qui on hébergeait, on rendait service à des copains. Et ça arrivait comme ça. Alors, quel est le rapport avec Elroy? Aux États-Unis, ils ont le FBI et Freddy Otache, en France, on a les renseignements généraux. Et ce que raconte, en fait, surtout le livre, c'est la traque d'Action Directe par ce service éminemment politique que sont les renseignements généraux. Mais à un moment particulier qui est la fin des années 70, début des années 80, c'est-à-dire le moment charnière où le pouvoir politique va radicalement changer, puisque la gauche arrive au pouvoir, et que les renseignements généraux à qui on avait dit « faut taper sur l'extrême gauche », vont se retrouver un peu pris entre la faucille et le marteau.
Entre
le marteau et la clume, c'est vraiment entre la faucille et le marteau, et vont par exemple arrêter Action Directe, ils vont en prison, mais paf, la gauche arrive au pouvoir, et la gauche libère Action Directe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande amnistie politique, mais aussi, c'est une des choses les plus folles qu'on apprend dans cette histoire, et ça passe par des mots attribués à François de Grossouvre, vous savez, l'homme basses manœuvres de François Mitterrand.
L'homme de l'ombre, le Freddy Otache.
C'est qu'en fait, le pouvoir socialiste à l'époque a très peur qu'il lui arrive la même chose qu'à Allende au Chili, qu'il se fasse renverser, donc ils ont le fantasme de créer un sac de gauche. C'est-à-dire le service d'action civique qui faisait les coups tordus du gaullisme, ils se sont dit, ces petits gars un peu dynamiques, ils vont être parfaits
sur des témoignages.
Ce sont des enquêtes, parce que ce qui est passionnant de ce livre, c'est que c'est un livre enquête. C'est-à-dire que dès le début, ils se disent, raconter l'histoire de Jean-Marc Rouillant, c'était un piège, parce que soit on va le trouver trop sympa, soit pas assez. Donc en fait, ils vont s'intéresser à un personnage très étrange qui est la première personne manifestement à avoir été assassinée par Action Directe, un certain Gabriel Chahine, qui est un peintre libanais qui grenouille un peu dans ces milieux-là. Son nom revient sans arrêt quand on parle d'action directe et qui en fait a un rôle beaucoup plus trouble que ça. On se demande si c'est pas un agent provocateur des RG, c'est-à-dire que cet homme qui aurait été blessé par des tirs d'ouzis israéliens en se battant du côté des Palestiniens avait peut-être été blessé plutôt par des Égyptiens en essayant de libérer le canal de Suez du côté des Français. C'est un drôle de personnage et en fait c'est un livre qui marche complètement sur ces dessous un peu pas très reluisants de l'histoire et avec cette figure fascinante, en fait, cette espèce de grand hippie très barbu, très très flamboyant, qui en fait va manipuler deux fois Action Directe, réussir à les entraîner dans des coups, dont le vol d'un tableau, l'escamoteur de Jérôme
avec
Bosch.
Une très jolie exégèse du tableau.
Du tableau, absolument, et qui avait été volé à Saint-Germain-en-Laye, et ça sera la première fois qu'il va piéger Action Directe. Il va les repiéger une deuxième fois en leur faisant croire qu'ils vont rencontrer le terroriste Carlos, et à la fin, ils se méfieront un peu de lui, ils vont finir par le buter. Cette histoire est passionnante, ça s'appelle L'escamoteur de Sébastien Goethals et Philippe Collin, c'est chez Futuropolis.
Avec un dessin assez urgent comme ça qui...
Ah ben dessin qui est à la fois un peu suranné, ça aurait pu être dessiné dans les années 70, ça paraît dans À suivre à l'époque, avec des bichromies comme ça qui changent un peu de couleur à chaque fois, et on est complètement enlevé par cette histoire. Voilà. Puis je vais vous parler d'un deuxième livre, si j'ai un peu de temps. Ça s'appelle Pour une fraction de seconde. C'est une biographie d'Edward Muybridge. Alors Muybridge, il est connu comme un des ancêtres du cinéma avec Jules-Étienne Marais, et les Frères Lumière, évidemment. Mais alors quand on pense à l'invention du cinéma en France, on pense à des bourgeois lyonnais qui filment le petit déjeuner, la sortie de leurs usines et le petit déjeuner bébé.
Ils filment ce qu'ils ont sous la main.
Aux États-Unis, c'est beaucoup plus violent. C'est-à-dire qu'on est au 19e siècle, donc on est en plein Far West. Et l'histoire de Muybridge, c'est l'histoire d'un immigré anglais qui va vouloir traverser les États-Unis pour aller en Californie, donc rejoindre ce qui sera effectivement le berceau du cinéma hollywoodien et qui va avoir un accident de diligence, puisqu'à l'époque, on se promène en diligence. Il a 30 ans, il va perdre... ses cheveux vont blanchir d'un coup et surtout, il va développer un tempérament extrêmement acariâtre. C'est un fou furieux, à tel point qu'il va notamment assassiner de sang-froid l'amant de sa femme dans un ranch au milieu d'une partie de poker. Enfin, on est vraiment dans un film complètement de western. Mais c'est aussi l'homme qui va vouloir figer le temps et qui va, notamment pour prouver qu'un cheval au galop, ça s'élève dans le sol à un moment, va développer ce qui va devenir le cinéma et le bullet time shot qui fera les bonheurs de Matrix. Et ça se lit de façon tout à fait... C'est très drôle, très passionnant, très horrible par moment,
c'est
signé Guy Delisle pour une fraction de seconde. C'est aux éditions Delcourt.
Merci Antoine, merci Esther. Je rappelle donc les sujets que nous avons traités ce soir. Long entretien avec James Ellroy autour des Enchanteurs, son dernier roman paru aux éditions Rivage dans la collection Rivage Noir pour Marseille, capitale du crime. Nous vous recommandons Martin Huc, Marseille interdite, 1878-1943, histoire du quartier réservé, c'est à la Manufacture de Livres. Marseille, capitale du crime, les racines d'un imaginaire de Laurence Montel, c'est aux éditions Champvallon. Et puis les sujets donc d'Antoine Guillot ce soir, L'escamoteur, bande dessinée de Sébastien Goethals et Philippe Collin, c'est aux éditions Futuropolis. Et puis Guy Delisle pour une fraction de seconde, La vie mouvementée d'Edward Muybridge, c'est aux éditions Delcourt. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Dalia, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Esther Teilhard, Antoine Guillot et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. La semaine prochaine, nous recevrons Valérie Lessort et Christian Eck en compagnie de Céline Duchesnay.